Bonjour et bienvenue sur le plateau de Local du goût pour demain. Un nouveau rendez-vous en partenariat avec Valence Roman Aglo et le CIVAM de la Drôme. Chaque mois, nous vous ferons découvrir un produit que l'on peut trouver sur le territoire de l'Aglo au travers d'une personne qui le cultive ou l'élève et une qui le transforme. Alors, nous débutons cette série d'émissions sur le manger bien, manger proche, manger bon et manger pour le futur avec un focus sur la volaille. Autour de la table, j'accueille Béatrice Rivoire, chef de projet agriculture et alimentation à Valence Roman Aglo. Bonjour Béatrice.
Bonjour à vous.
Laurence Penelon, animatrice de projet éducatif au CIVAM de la Drôme. Bonjour.
Bonjour.
J'accueille aussi Cécile Gérard-Esquel, productrice avec son époux Nicolas sur la ferme de Jaux. Bonjour.
Bonjour.
Et j'accueille enfin Johan André et Marie Fiori-André du restaurant Fin de Saison à Alixon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et nous entendrons aussi Ludivine Lambert, diététicienne, pour un éclairage santé un petit peu plus tard dans l'émission. La volaille et le CIVAM. Vous m'avez entendu annoncer notamment CIVAM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CIVAM ? Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Pardon. Est-ce que c'est juste ce que je dis, Laurence ?
Oui, tout à fait.
Alors, le CIVAM Drôme, pourquoi vous nous avez proposé de créer cette série d'émissions ?
Alors, tout d'abord, c'est une réponse à, on va dire, un appel à projet de l'agglomération de Valence Roman Aglo, auquel on a répondu. Et aussi, c'est parce que ça nous intéressait. Voilà, donc c'est une rencontre. Disons que le fait de sensibiliser les habitants à ces questions d'alimentation et d'agriculture était le nœud du projet. Et puis après, on a proposé différentes actions, on s'est rencontrés. Et dans ce que nous, on a proposé par rapport à ça, on s'est dit, une émission de radio, ça peut être vraiment intéressant. Et surtout de faire le lien entre les aliments locaux, en choisir certains, et aller à la rencontre de ceux qui les produisent. Et aller à la rencontre aussi de ceux qui nous les transforment. Alors, en assiette, en plat, mais ça peut être aussi en bocaux, pourquoi pas.
On peut peut-être repréciser un petit peu les actions différentes du CIVAM.
Alors, c'est une association déjà à l'origine d'éducation populaire, ce qui veut dire apprendre les uns des autres. On est tous apprenants, mais on peut tous aussi apprendre des choses des autres. À l'origine, c'est quand même pas mal des agriculteurs qui ont souhaité s'apprendre des savoirs et des savoir-faire entre eux. Et aussi l'idée de faire du lien en milieu rural dans les campagnes, entre la ville et la campagne. Donc, pas mal d'événements culturels, organiser des portes ouvertes, des rencontres.
Oui, on a de ferme en ferme, par exemple, chaque année, qui est assez connue maintenant.
Par exemple. Et il y a aussi de la sensibilisation. Alors, ça peut être du jeune public ou des adultes, mais aussi des choses sur les circuits courts. Ça fait pas mal d'années que le CIVAM Drôme, ce qu'on appelle circuit court, c'est le fait de valoriser que les gens puissent vendre en direct, notamment les agriculteurs, et aider à ce que ça se produise, à le faciliter. Dans tous les cas, c'est du soutien à des projets de collectifs ruraux ou d'agriculteurs. Donc ça peut être sur une filière, par exemple, de dire autour de tel enjeu, on a envie de travailler ensemble. Et nous, on va plutôt l'animer ou y contribuer. C'est-à-dire soit c'est nous qui sommes à l'initiative, soit on va faire des groupes avec d'autres structures et on va travailler ensemble sur des sujets. Et particulièrement sur mon poste, je travaille sur la sensibilisation des jeunes, des enfants. Je travaille avec des enseignants, avec des professeurs et aussi des animateurs de centres sociaux, par exemple.
Merci, Laurence.
Je vous en prie.
C'est un métier, si tu n'es pas passionné, c'est mort. Il ne faut pas le faire.
Alors justement, vous allez reconnaître la voix de celle qu'on vient d'entendre, c'est Cécile. Bonjour, rebonjour Cécile.
Rebonjour.
Effectivement, j'ai pris ce petit extrait de notre échange parce que j'ai trouvé que ça représentait bien en fait tout ce qu'on a envie de transmettre en tous les cas. Cette passion des producteurs et productrices locaux. Toi, tu es là pour représenter la ferme de Jaux. Vous êtes deux sur l'exploitation, Nicolas et ton époux et toi-même.
C'est ça.
Tu es en train de, voilà, tu es en train de devenir à 100%.
C'est ça. En fait, ouais, je vais m'installer dans les mois à venir. Voilà.
Et alors, juste trois mots sur la ferme de Jaux.
Alors, la ferme de Jo, tout d'abord, c'est des volailles bio élevées avec amour. Ça, c'est très important. C'est une ferme qui est... Alors, mon mari, ça fait 3 ans qu'il est sur la ferme. Mmh. Voilà. On est essentiellement en circuit court et en magasin de producteurs.
Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de la volaille et
de la volaille.
Et ouais.
De la volaille de chair, essentiellement. C'est notre activité principale. On a un petit peu de brebis, mais en très, très peu mmh. quantité. Et un tout petit peu de... Mais un tout petit peu.
Et on est à Bézaille.
Voilà.
Donc vraiment pas. Voilà. On reste sur le territoire, très 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 proche. Alors moi je vous propose tout de suite d'aller vous balader dans cette ferme de Jo où Cécile m'a accueillie.
Les poussins, ils viennent d'où alors? Alors les poussins, ils sont d'un couvoir qui est dans les terres froides là-bas vers Autruve. Et c'est des personnes qui... C'est un couvoir, en fait, qui les fait pour nous.
Et donc, un jour, ils arrivent sur l'exploitation.
C'est ça. Là, tu vas voir, ils sont tout petits. Ils sont arrivés vendredi. Donc, ils ont 4 jours. Les kikis. On les prévient toujours un peu pour pas... Il fait bon, là. Non, on va être bien. Allez, va rentrer.
Ça, c'est la
poussine.
Oh là 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 là. Il y en a 150. Alors, c'est des
ventes
de 150.
Et alors là, c'est quoi comme...
C'est des poussins rouges. Alors, il y a une température... Il faut que la température ambiante fasse 25 degrés à peu près. Et sous les radiants, à peu près 35.
Et ça, combien de temps?
Qu'à 42 jours, on les sort. Mais 15 jours avant, on enlève la poussinière. Et après, au bout du 42e jour, on ouvre et on les fait sortir jusqu'au 81e jour. En sachant qu'on abat en 2 fois 75-75. On abat un premier lot qui est à 81 jours et le lot d'après à 7 jours de plus. On a très très peu de mortalité, vraiment très 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 peu. On a vraiment de... De toute façon, on n'a pas le droit à moins. Dans la réglementation bio, tu n'as pas le droit à moins de 81 jours, c'est interdit.
D'accord. Et c'est tout ça qui monte à combien à peu près en termes de poids?
De poids, de qui? Alors, en poulet entier, 2 kg, 2,5 kg. Le fait de les finir au maïs et au petit lait bio. Alors, le petit lait bio, on le prend à la ferme des Raffins. C'est une collègue à moi, parce qu'on est, on est associé à la musette du Valentin. Oui. Et en fait, c'est une collègue qui fait de la vache. D'accord. Et en fait, elle nous fournit le petit lait. Donc, il est bio aussi. Et le maïs vient de chez Ciseron.
Et l'aliment, il y a quoi dans l'aliment
alors,
avec lequel ils sont démarrés?
Ça, c'est le démarrage poussin. Après, tu changes d'aliment quand tu les ouvres. Uh-huh. Et après, tu as la finition. En fait, tu as démarrage, transition et finition. Et en fait, dans l'aliment, tu as du maïs, du soja, du blé, du triticale, de l'orge, fèves et fèvrolles, des pressions de graines de sésame, de la farine de luzerne. Après, tu as carbonate de calcium, gluten de maïs, huile de soja, levure, algues marines, calcaire, voilà. Et ça, c'est ceux qui partent demain. Voilà, tu vois, tu le vois par rapport aux pâtes. J'ai arrêté. Ceux-là, ils sont beaux.
Oui, il y en a quelques-uns qui... Attends. Il y en a quelques-uns qui, effectivement, sont... Et donc là, quand tu disais ils partent demain, ils partent à l'abattoir?
C'est l'abattoir. Ça, à l'abattoir demain.
D'accord. Oui, parce que ça, comment ça se passe?
Alors, on abat déjà à Chabeuil.
Ouais.
Donc, c'est un abattoir familial. Ils sont excellents. Ils sont trop bien. Ils travaillent super bien. Il y a vraiment tout. T'arrêtes. Il y a vraiment même tout. Il y a à tel point que quand on arrive à l'abattoir, en fait, il y a un rideau. Où les volailles ne voient pas leurs copines se faire...
D'accord.
Il est magnifique cet abattoir, donc ils partent à l'abattoir et voilà, choisis entre de la découpe et de l'entier. Et voilà.
D'accord. Et c'est vous qui les emmenez?
C'est nous qui les emmenons, ouais.
D'accord.
Dans les cages, le matin on les attrape, on les met dans nos cages et je les emmène. Et après je les récupère le lendemain, prêtes à la vente. Ils ont... attends, c'est celui-là. Là, je crois qu'il sort pas, c'est celui-là.
Et donc, en principe, donc, effectivement, c'est tout en extérieur.
Ouais.
Avec un poulailler pour se mettre à l'abri.
C'est ça. Et puis la réglementation extérieure, parce que tout est réglementé. Je vais tout le temps pailler, quoi. Là, tu vois, ceux-là, ils sont pas encore sortis. Ils sont pas à 42 jours, ouais. Et en fait, ce qui est super, voilà, cette période-là, pailler, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu vois.
Et pourquoi il faut pailler plus?
Bah, parce que pour pas déjà que ça les. Pas qu'ils se blessent. Et puis pour leur. Ouais, pour le bien-être, quoi. C'est vachement bien quand on a pas. Parce qu'après, l'humidité, c'est pas bon pour eux. L'humidité, et puis c'est pas bon, ça peut faire des malformations aux pattes. Ça peut leur faire, même quand c'est pas bien paillé, aussi des bleus. De toute façon, c'est un métier, si t'es pas passionné, c'est mort. Faut pas le faire.
Tu as raison. Voilà, donc ça, c'était, j'espère que vous avez une petite immersion par les oreilles dans la ferme de Jo. Alors, la bête que vous entendiez grogner, ce n'est pas la bête du Gévaudan.
C'est Jenny.
C'est la chienne de la maison qui voulait aussi exister par le...
Exactement.
par le son. Cécile, juste avant de... Parce qu'on a normalement, Nicolas aurait dû être là, mais le travail est plus important que tout et ça se comprend. Puis tu es une bonne... tu es l'autre moitié de toute façon de la ferme de Jo. Simplement, on va l'entendre en interview aussi. Mais avant de l'entendre, je voulais revenir sur une chose que tu as dit. Tu as parlé de bien-être. Et que ça, on va dire que je crois que c'est une des premières choses que tu as dit quand tu es arrivée sur le site là-bas. On a commencé à faire le tour. Tu as parlé de volailles bio et tu as parlé de bien-être, c'est-à-dire que vraiment on les chouchoute.
Ah ben
voilà, ça fait partie. C'est des animaux. C'est pas des animaux de compagnie. Ce sont des animaux domestiques qui sont élevés pour l'alimentation. Mais voilà, vous transmettez beaucoup d'amour.
Ben c'est pour ça déjà que le slogan, on a choisi le volaille bio élevé avec amour. Mais parce que même si elles finissent ou elles finissent, ben du début à la fin, il faut bien s'en occuper. Et puis de toute façon, ça se ressent dans le goût de la viande. Hein. Un animal stressé, un animal maltraité, de toute façon, ça se sent au goût de la viande. Ça, j'en suis persuadée. Et c'est important de prendre soin d'elles, de les élever au mieux, en fait. Dans le respect, parce qu'elles nous nourrissent, quoi. Donc il faut les respecter rien que pour ça.
Mais le respect qu'on leur donne, finalement, elles vont nous le rendre aussi d'une certaine manière.
Avec la salle, ouais.
Et alors, juste peut-être un petit mot du cuisinier. Je vois ses yeux qui brillent là en face. Juste sur ce sujet-là, est-ce que toi, tu vois qu'effectivement, il y a une différence entre une...
Non, directement. Enfin, j'ai eu cuisiné d'autres volailles en type non bio ou plus traditionnel, et c'est vrai qu'on le ressent directement à la découpe. Voilà, les os sont vachement plus résistants, la chair est ferme, enfin ça se à la cuisson ça elle se tient, et puis voilà, on perd pas d'eau, c'est pas gorgé de n'importe quoi, et puis le résultat il est directement dans les clients. Il dit ah, enfin le goût du poulet, enfin le goût, ouais, voilà,
sur parce plan gustatif, ça n'a rien à voir.
Mais clairement, ouais, ça c'est, enfin moi c'est cadeau quand on peut arriver à avoir ce retour en salle des clients qui disent ah bah enfin le goût du poulet, c'est bon, c'est ouais. Jackpot.
Alors je vous propose d'écouter Nico, parce qu'on va en parler aussi avec Nicolas, donc de ce respect et du goût et de ce que et du jou du coup le ce que nous rendent effectivement les animaux quand ils sont bien élevés au vrai sens du terme, on va dire.
Quand j'étais plus jeune, mon grand-père, il avait une ferme. Et du coup, moi, j'ai toujours donné un petit coup de main sur la ferme, le mercredi matin, le samedi matin. Ma mère, il y a une quinzaine d'années, elle a décidé de remonter la ferme. Quitte à la monter, bah, autant la monter en bio. Et puis ben, le temps passe, et puis la retraite arrive, et du coup ben, la ferme elle avait pas de repreneur. Donc c'est soit moi je faisais une reconversion professionnelle et je reprenais la ferme, ou soit ben, elle partait à quelqu'un d'autre et certainement pas dans la famille. Donc c'était quand même dommage, ou elle s'arrêtait. Donc ben, ça je trouvais ça vraiment dommage par rapport au petit village qu'on est, etc. De pouvoir servir les gens qui sont autour de chez nous déjà, pour commencer.
Du coup ça veut dire formation,
ça veut dire, ouais, ça veut dire un an de BPREA, donc un bac pro agricole, quoi, pour se mettre un petit peu dans le bain, parce que ben, moi j'ai des notions d'agriculteur puisque j'ai toujours baigné un peu dedans, mais j'avais pas vraiment les bases. Et là ça me permet de partir avec des bases quand même assez solides grâce au BPREA. Et ça permet de faire des visites aussi d'exploitation pendant qu'on est en BPREA et de voir les autres comment ils travaillent, de faire des stages. Bah, par exemple, mon collègue à côté, Papy Volaille, qui fait pas mal de volailles sur le secteur, bah, lui m'a vraiment formé au métier, m'a montré ce que c'était de faire des heures, etc., bah, pour y arriver, quoi, parce qu'on n'a pas le choix au début. Mon beau-père et ma mère, quand ils ont remonté la ferme, ils ont décidé de, eux, de s'installer déjà en poule pondeuse et en poulet de chair. Donc l'exploitation était déjà pourvue pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les bâtiments, il y avait déjà les mangeoires, les abreuvoirs, et déjà tout un cheminement qui était déjà en place. Il y avait les points de vente aussi. Là, c'était déjà tout en place pour les œufs et le poulet. Après, j'avais juste à développer, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas mal d'œufs, mais très peu de poulet de chair. Donc moi, j'ai développé le poulet de chair, mais les points de vente étaient déjà un petit peu là.
Et le bio, c'était évident pour toi?
Alors, d'une part, c'était une évidence par rapport au fait que la ferme soit déjà en bio. Donc, revenir en arrière, c'est ridicule. Et de surcroît, ma femme ayant eu des soucis de santé quand même assez compliqués, ben, je pense que d'avoir moins de produits chimiques, moins d'intrants chimiques sur une exploitation agricole, et ben, je pense que ça a quand même un raisonnement qui est intéressant pour notre santé et puis pour notre futur, quoi, pour nos enfants, pour nous, pour la planète, quoi. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème. Donc je dis pas que le bio ça résout tout, parce que il y a bio et bio, parce que l'agriculteur fait beaucoup. On va dire, on peut avoir n'importe quel contrôle, autant de contrôles qu'on veut dans l'année, si l'agriculteur il n'est pas prêt à s'y mettre et qu'il fait ça uniquement financièrement parlant, c'est pas bon. Moi le but c'était de pas utiliser du tout de produits chimiques, que je sois en bio ou pas en bio d'ailleurs, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que le bio, ça permet aussi de valoriser mieux notre marchandise. Ça aussi, c'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, d'en vivre, c'est pas évident. Hein. Ça fait la quatrième année, je vais juste commencer à me payer. Donc non, c'est pas évident. Et même en bio, c'est vraiment à taille humaine aussi la ferme. Moi, je fais 3500 poulets de chair à l'année, 250 pondeuses. En bio, ça se voit. En conventionnel, on voit pas ça. C'est en conventionnel, c'est 70 000 poulets, etc. quoi. C'est différent, voilà. Le but, c'était vraiment d'avoir des petites unités pour que, ben, déjà, il y ait un bien-être animal. Ben, du fait que ce soit bio ou pas bio, ça importe peu. C'était vraiment, pour le bien-être animal, c'était vraiment la densité qui m'importait. Donc, du coup, des petits bâtiments avec une petite densité à l'intérieur. Pour les moutons, c'est de l'extensif. Peu de moutons, peu de chargement sur le nombre d'hectares qu'on a. Enfin, voilà, vraiment, c'était de faire quelque chose qui soit extensif et pas intensif. Parce que le but, c'est d'avoir une des meilleures viandes dans la région. Si on fait du bio, si on veut travailler mieux que les autres, etc., et ben pour se démarquer, ben il faut bien marquer des points quelque part. Et le bien-être animal fait qu'on a des chairs qui sont beaucoup plus tendres, bien moins tendues, bien moins stressées quand ça va à l'abattoir, etc., etc. C'est des choses qu'il faut y penser à ça, parce que ben on va dire que les nerfs d'une volaille fait beaucoup au niveau de la tendreté de la chair. Avec ma femme, on est ici du même boulot, en fait. On a été commercial pendant une dizaine d'années chez Maximo, qui fait de la livraison de surgelés et d'épicerie à domicile. Donc du coup, faire des tournées pour livrer les gens, l'organisation d'une tournée, tout ça, on connaît par cœur, quoi. Et, oui. et du coup, aujourd'hui, on a vraiment des bonnes bases. Et ce que je trouvais dommage, moi, c'est que quand je faisais ce métier de commercial, le produit, je le connaissais pas. Et ben là, en fait, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais l'aspect commercial, j'ai toujours le boulot de commercial, je vends des produits, mais je vends les miens. Donc du coup, bah, aux gens, je sais quoi leur dire. Je sais leur dire, bah, le poulet il a été élevé comme ça, avec tel grain, avec tel granulé. Bon, et je sais produit. Comment c'est fait, etc. Donc voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Et du coup, bah, je pense que ça a été une bonne chose pour moi d'avoir cette expérience la première, parce qu'il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui ne savent pas se débrouiller au niveau de la vente et qui du coup choisissent pas des circuits courts pour ça, choisissent plutôt des circuits longs, pas parce qu'ils veulent un circuit long, c'est juste que la vente, ils n'arrivent pas à communiquer avec les gens, ils n'arrivent pas à aller vers les autres, voilà, il y en a qui ont du mal. Et ben là, c'est vrai qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir faire du circuit court, quoi. Si tu veux faire agriculteur en circuit court, ben, il faut être un minimum commercial, quoi.
Voilà cette interview de Nico qui aborde plein de sujets et je trouve qu'ils sont extrêmement pertinents dans la démarche qu'on a aujourd'hui. Il parle de reconversion. Alors je trouve ça chouette parce qu'aujourd'hui, que ce soit du côté producteur ou du côté restaurateur, ce sont deux reconversions. Donc c'est intéressant aussi de voir. Un, qu'on a plusieurs vies en une vie, ça, voilà, plus personne n'en doute, je crois, maintenant, en tous les cas des vies professionnelles, voire après personnelles. Mais c'est aussi qu'il y a une vraie envie d'avoir plusieurs cordes à son arc aussi, et que tout est important, on tire parti de toutes les expériences, et que Cécile, tu es d'accord avec Nicolas quand il dit ça?
Ah mais totalement, ça a été vraiment, enfin, notre expérience en porte-à-porte, ça a vraiment été une force quand même. Vraiment, parce qu'on était, on allait carrément chez les gens, on allait toquer chez eux, on leur, comme il dit Nico, on leur vendait des produits qu'on connaissait même pas. Tandis que là, on connaît du début à la fin comment ça se passe. Et puis la communication aussi, aller vers les gens, savoir appréhender tout ça, quoi.
Laurence, Béatrice, peut-être un mot justement sur... sur ces jeunes agriculteurs, sur ces nouveaux producteurs et productrices. Il y en a beaucoup sur le territoire qui sont issus du territoire, soit qui viennent de l'extérieur, mais qui font cette démarche de reconversion.
Alors, sur les chiffres, je ne pourrais pas vous dire, parce que ce n'est pas trop mon domaine. Par contre, il y en a quand même un certain nombre en formation, oui. Mmh. Il y a quand même pas mal de jeunes. Après, justement, c'est un sujet que je n'ai pas abordé tout à l'heure, mais l'installation et la transmission des fermes, c'est un sujet en soi, c'est à la fois une source de travail, alors d'inquiétude, hein, faut pas se le cacher. Le CIVAM, il contribue avec d'autres, justement, donc Béatrice vous en parlera peut-être, mais c'est dans les objectifs de l'agglomération. Mais globalement, ça préoccupe le territoire français dans son ensemble. Et les CIVAM, que ce soit au niveau de la Fédération nationale ou du local, on est impliqué là-dedans pour réfléchir, faire des propositions ou des actions concrètes. Là, ils se sont débrouillés comme des grands. Hein, mais la Drôme, il y a quand même pas mal de reconversions, en tous les cas. Et il y a qu'à voir, par exemple, la formation au lycée du Valentin. C'est là que l'a fait Nico. On irait les interviewer pour leur demander. Il y a quand même pas mal de jeunes qui sont... Ou de jeunes agriculteurs jeunes, dans le sens ils arrivent dans le métier, qui sont en reconversion. Oui, il y a beaucoup de nouveaux quand même.
Alors, c'est prévu, hein, de toute façon, d'aller à un moment ou à un autre du côté, tendre nos micros du côté du lycée du Valentin, effectivement. Béatrice, tu veux rajouter quelque chose sur ces reconversions, peut-être, sur le territoire?
Oui, alors les reconversions, elles sont importantes parce qu'il y a une donnée qu'il faut vraiment savoir, c'est que d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs actuellement actifs seront à la retraite. Et ça, c'est un enjeu très important parce que si on veut rester avec des exploitations comme celle de Nico et Cécile, respectueuse de l'environnement et de l'animal dans une dimension adaptée et qui donne le résultat qu'on a pu entendre, eh bien pour cela, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir tendance à ce que les exploitations se regroupent pour devenir de plus en plus grandes. Et donc il faut vraiment trouver de nombreux exploitants qui ont envie de s'installer, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde peut s'installer, mais qui peut rester dans une dimension de l'exploitation qui reste quand même à une taille correcte. Oui, c'est ça. Parce que effectivement, ces départs à la retraite sont inquiétants par rapport à ça. Retrouver des repreneurs, il y en aura toujours qui voudront s'agrandir, mais le fait vraiment de sortir d'une certaine quantité, de certaines tailles, ça ne permet plus ce travail de minutie. Hein. C'est un peu de la dentelle que font là les exploitants quand ils paillent. Pailler, ça prend beaucoup de temps. Il faut le faire régulièrement. Eh bien, ça, on ne peut pas l'avoir si effectivement on a plusieurs énormes poulaillers ou plus.
Oui, voilà. C'est autre chose. C'est plus le même métier quasiment. Hein. Et puis il y a une histoire de maillage du territoire aussi qui fait vivre ce territoire. Parce que Nico, comme disait Nico, c'est quand même triste de savoir que au village, les gens pourraient plus venir acheter des volailles. Enfin, j'ai trouvé ça très à la fois très tendre, certes, mais aussi très, très réaliste de dire on parle de désertification, alors qu'on a parlé beaucoup de désertification. Aujourd'hui, on voit les jeunes, voilà, pas mal de jeunes, revenir à la campagne, revenir dans des zones rurales. Si on veut que ces zones rurales vivent, il faut qu'il y ait de quoi les accueillir, de quoi leur permettre aussi de vivre, pas simplement au niveau travail, mais aussi au niveau service, etc. Le choix du circuit court, il était... Je te repose la question à toi, Cécile, mais est-ce que c'était évident quand vous êtes vraiment mis en place.
C'est clair que c'était une évidence, le circuit court. Parce que de toute manière, dans tous les cas, on n'intéresse pas les gros, enfin les grandes surfaces, tout ça, on les intéresse pas. Déjà, ils veulent tout pour rien. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. les grandes surfaces, non.
Mais c'est le prix avant tout.
Mais c'est clair. Et puis, je pense que si vraiment ils voulaient donner, enfin, je pense que si vraiment ils voudraient, ils pourraient. Et puis, parce que le circuit court, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on est proche des consommateurs. Le fait de faire des permanences dans les magasins de producteurs, ça permet de rencontrer ses clients, de discuter avec eux, de leur expliquer un petit peu notre démarche, notre envie. Enfin, c'est le circuit court, c'est clair, c'est une évidence.
Et puis, il y a une notion d'excellence. Enfin, voilà, au travers de que ça soit de l'un ou de l'autre, il y a une notion de... Quand je dis excellence, ce n'est pas du tout en termes de compétitivité. Quoique, bon, il y a le petit côté, oui, mais j'ai envie d'avoir la meilleure, la meilleure volaille. Bon, mais ça, c'est tout à fait naturel. Mais c'est vraiment de dire, voilà, je tends vers la meilleure qualité possible à proposer à mes clients, parce que ce n'est pas simplement en termes financiers, ce n'est pas simplement pour flatter mon ego, c'est parce que c'est une conviction profonde aussi que manger bon, manger bien, c'est vraiment important.
Ah mais ouais, mais totalement. C'est pour ça que donc, nous, en fait, à la base, donc, on élevait nos volailles avec du ciseron bio. Et puis, en juin, on a eu les grises du Vercors. Donc, c'est une race locale. Et on les a enlevées pendant 7 mois et on les a finies au maïs bio et au petit lait bio. Et on s'est dit, bon, nos volailles, certes, on ne les garde pas 7 mois, là, parce qu'économiquement parlant, ce ne serait pas possible. Mais on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec nos coups nus, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne les finirait pas aussi au lait et au maïs bio, avec le granulé ciseron en plus, pour avoir ce petit truc en plus qui ramène un goût particulier, quand même, je trouve, à la viande. Le fait de leur donner ça. En plus, les rendre bien jaunes, un peu plus gros. Ils adorent ça, en plus. Ils sont trop fans. Ils kiffent trop. Et voilà, ouais, c'est pour amener ce petit plus, peut-être un peu par rapport aux autres, même si mes confrères aussi travaillent très bien.
Je vous propose de faire une petite respiration musicale tout de suite. C'est Guts avec Groove Ma Poule.
Ma
écoutez Radio BLV 93.6. Vous êtes dans local du goût pour demain, le rendez-vous du manger bon, manger bien, manger proche, pour manger pour le futur. Avec aujourd'hui un focus sur la volaille. Donc pour ce premier rendez-vous, Laurence du CIVAM, tout à l'heure on en a parlé, puis en fait on a laissé passer le truc. Pourquoi finalement le choix de la volaille sur ce premier épisode?
Alors, on avait préparé un menu sur la base des objectifs de l'agglomération pour le futur de l'agriculture. Il y a un scénario que Béatrice vous présentera tout à l'heure. Et dedans, il y avait des grands objectifs. La volaille en fait partie. Le souhait, ce serait que pour des questions environnementales, de soutenir de plus en plus des filières de volaille de qualité, alors pas forcément que en bio, mais pour diminuer la taille et l'impact des poulaillers, et aller vers des objectifs en termes de gaz à effet de serre en réduction ou des objectifs environnementaux plus forts, ce serait de soutenir ça.
Et un truc que je peux vous donner lorsque c'est cuit, c'est que lorsque ça sent bon, c'est pas plus compliqué que ça.
Est-ce que ça sent bon dans les cuisines de Johan et Marie, enfin dans la cuisine de Johan, puisque je précise, donc Johan, toi tu es au fourneau, Marie tu es en salle.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et vous êtes à Alixon.
Tout à fait.
Je disais, voilà, on a des reconversions, on n'a que des gens qui ont changé de chemin à un moment. En quelques mots.
En quelques mots, on vient de l'Isère, à Lamure exactement. Je suis né là-haut, Marie a passé 25 ans. Et on a rapidement eu l'envie d'un projet de restauration. Il y a longtemps de ça déjà. Et les choses n'ont pas pu se faire. Il a fallu se former, il a fallu trouver le bon projet. Et ceci jusqu'à il y a 3 ans où j'ai passé une formation de cuisinier du terroir à La Fratte, à Autran. Une formation longue de 9 mois qui, clairement, clé en main, ça permettait de démarrer une structure à taille humaine comme celle qu'on a actuellement, avec donc l'accent mis sur le local, les produits bio, sur la transformation, sur la valorisation du produit jusqu'à son paroxysme, quoi. Donc voilà, et ça nous a amené à Alixan, donc un restaurant qui a été rénové par la municipalité et qui cherchait des gérants. Donc on a postulé parmi 19 candidats. Les 19, s'est passé à 10, de 10 à 3, et dans les 3, on a réussi à décrocher le pompon. Voilà.
Bravo. Et toi, Marie, l'envie, elle était vraiment partagée de partir dans la restauration?
Oui, elle était partagée depuis pratiquement 10 ans, une dizaine d'années déjà. Voilà, c'est en se rencontrant en fait avec Johan où je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a quelque chose à faire au niveau de la cuisine. Il me faisait des bons petits plats et j'ai trouvé que c'était fort dommage que je sois la seule à en profiter. Donc voilà, c'est vraiment parti de là en fait. Et voilà, jusqu'au projet d'Alixan où nous avons effectivement eu la chance d'être choisis. Ouais.
On a des gens généreux autour du plateau, là, c'est chouette. Merci de vouloir partager.
Que la cuisine, hein.
On n'en dira pas plus. Allez, trêve de plaisanterie. Toi, tu as fait, Johan, tu as fait cette formation, mais du coup, j'ouvre un peu. Mais toi, Marie, tu as fait aussi une formation pour...
Absolument pas. D'accord. Alors moi, dans ma première vie, j'ai été prof de musique pendant un certain nombre d'années. Ensuite, la vie étant, je me suis retrouvée dans l'Isère, j'ai élevé mes 3 enfants. Et ensuite, je me suis tournée vers la fin de vie. Mmh. Et j'ai, pendant 6 ans, je me suis occupée des gens en fin de vie, et en grosse dépendance. La suite, c'est donc, la restauration. Voilà. Bon, après, j'ai déjà eu des contacts avec la restauration, mais très peu, en fait. Mmh.
Donc,
vraiment, ça n'a pas été ma vie.
Donc, vous avez pris ça tous les deux à bras-le-corps, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est un
ouais.
défi...
énorme.
C'est ça, oui.
Un défi énorme.
C'est, en fait, c'est né de pas grand-chose, mais juste de l'envie de partager ça. Et puis,
ouais, c'est ça.
Et puis, d'axer sur le côté humain, quoi. Taille humaine et voilà.
Ouais, c'est... L'envie du partage, oui. Voilà. L'envie du partage et de travailler ensemble aussi. Mm-hmm. Ça, c'est important parce qu'on est ensemble 24 heures sur 24 et il faut que ça fonctionne, quoi.
Alors, il y a Cécile qui acquiesce. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une aventure humaine aussi, hein, une aventure de couple, de travailler ensemble.
Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, il faut que ça matche, quoi. Ouais, vraiment.
Ouais, carrément.
Johan, donc tu as cette formation, elle était vraiment particulière sur les produits du terroir. Du coup, c'est assez logiquement que quand tu es arrivé à Alixan, bah c'était vraiment le cœur de ta cuisine. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Tu es arrivé à Alixan, donc tu es de l'Isère, t'es pas très loin, mais enfin bon, il n'empêche que tu connaissais pas nécessairement les producteurs et productrices locaux, peut-être des produits particuliers aussi au territoire.
C'est ça, en fait, c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire que le projet de réhabilitation du restaurant a été d'envergure, était très conséquent. Et comme dans de nombreux chantiers, il y a souvent du retard. Et là, il y a eu un sérieux retard. Et de mois en mois, en attendant l'éclosion du projet, on n'avait que le temps de prospecter auprès des producteurs. Et voilà, et la ferme Ajo en fait partie, la ferme des Routes à Baga, pareil, c'est que par des rencontres humaines. Mmh. On a voulu aller rencontrer directement les personnes, l'exploitation ou les exploitations, et c'est là où on a dit, bon ben là oui, ça nous parle, quoi. Ça nous parle parce que c'est pro.
Fait avec éthique, avec respect de l'environnement, respect de la nature, donc respect de l'être humain. Donc voilà, c'était vraiment un partage aussi, pareil.
Donc voilà, donc c'était les premières marches ont été posées là, et après c'est vrai que ça s'est emballé, ça s'est propagé, et puis après c'est les gens qui viennent parfois à nous en disant voilà, moi je produis ça, ça vous intéresse,
découvrir.
Voilà. Et c'est vrai que c'est incessant. Et c'est ça qui est génial ici, c'est qu'à chaque coin de village, à chaque il y a toujours une pépite qui sort et qu'on découvre et on dit voilà, ça c'est cadeau, quoi.
Alors c'est cadeau pour nous aussi. On espère au plus vite vous retrouver d'ailleurs.
On
va pas s'étendre dessus, mais on est très très malheureux. Nous aussi en tant que gourmand et gourmande, on va dire tout simplement, et gourmet et gourmette. La volaille, puisque c'est l'objet de cette première émission, la volaille, toi c'était un produit que tu affectionnais particulièrement ou pas plus que d'autres finalement?
Alors, je suis pas le premier viandard mais à choisir dans les viandes, c'est un peu ma viande de prédilection. Voilà, tout ce qui est viande rouge, je suis pas fan, mm-hmm. mais sur la volaille, il y a quelque chose que j'aime travailler, en fait. Voilà, j'aime la découpe, j'aime ce qu'on peut en faire, les différents types de cuisson. Et c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup travailler.
Alors, on a abordé très rapidement tout à l'heure les cougnes rouges. C'est la base, on va dire, c'est l'élevage de l'année. Et puis, il y a la grise du Vercors, qui est vraiment une particularité, puisque c'était une poule qui s'était perdue. Cécile, peut-être deux mots?
C'est ça, en fait, c'est une race qui était pas très... Enfin, il y a une éleveuse qui le fait, c'est Elodie Petitbon, mais elle le fait pas de la même manière que nous, mm-hmm. mais elle en faisait un petit peu, qui est à Haute-Rive. Et puis nous, en fait, on est rentrés en contact avec le couvoir Ouantien, et c'est un monsieur de Divageux qui éclot les... Mm-hmm. qui fait éclore les petits poussins. Et c'est Evelyne Thésier du Royan qui s'occupe de cette association. C'est grâce à elle que la race a pu revenir, en fait. Mm-hmm. Elle a parcouru la France pour trouver des grises et pour... voilà.
Super, parce qu'effectivement, c'est une poule qui s'était un peu perdue dans le coin. Et alors, quelle particularité gustative a-t-elle, Johan, cette poule?
Ouais, non, c'est eux qui m'ont fait découvrir et c'est incomparable. Enfin, dans la finesse de la chair et dans la tendreté, il y a plein de choses, quoi. Et quand on compare, pour moi, je l'utilise uniquement dans les périodes de fête à Noël, ce Noël-là et ce Noël d'avant. Et c'est vrai que comparativement à un chapon qui, Voilà, c'est.
Et dont on fait tout un plat.
Voilà, exactement. Pour moi, c'est autre chose, quoi. C'est une autre découverte. C'est vraiment le goût qui est mis à l'honneur. Et voilà, je prends énormément de soin à choisir les recettes pour pour pas la couvrir d'une sauce qui la ferait oublier. Là, c'est vraiment la mettre à l'honneur. Il y a vraiment des choses vraiment sympas à faire avec ce type de volaille. Quoi.
Et tu la sublimes parfaitement.
Alors, merci.
Ce que tu viens de dire, il faut le souligner, c'est ne pas travailler avec une sauce un peu trop présente qui nécessite peut-être justement une viande un peu moins goûteuse, parce que c'est la sauce qui est plus importante à la limite que la viande, ou alors ça sera la texture de la viande qu'on va rechercher. Donc c'est un peu quand même aussi une autre manière de cuisiner finalement que de privilégier le goût du produit.
C'est ça. En fait, moi, dans ma cuisine, je retiens deux choses. C'est déjà sur le type de cuisson qu'on va choisir. Il y a des cuissons qui ne seront pas du tout adaptées au produit ou qui vont complètement le dénaturer. Et là, on perdra tout l'intérêt de ce qu'on cuisine. On annulera le travail de tout ce qui a été fait en amont. Et pour moi, je ne jure plus que par la cuisine à basse température. Et là, on est vraiment dans le respect du produit, c'est-à-dire qu'on ne va pas le dessécher, on ne va pas l'agresser. C'est des températures très douces, très longues, souvent, pour arriver à la juste température à cœur. Et voilà. Et donc, c'est vraiment adapter les cuissons et mettre en valeur à l'aide d'une sauce, à l'aide d'un aliment ou d'un condiment qui fera que l'accord match au mieux, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous donner, parce que là, on commence déjà à avoir les papilles qui frisent, est-ce que tu peux nous donner une recette
La recette de cette année qui a été présentée pour le Noël et Jour de l'An, c'est une grise de Mercant que j'ai fait au Combo Royal. Alors, ça peut surprendre un peu, mais en fait, le Combo Royal est une algue. Et j'ai voulu retrouver le côté iodé pour assaisonner cette volaille. Et j'ai utilisé donc les blancs, les filets qui est prélevé sans la peau, roulé simplement dans un film étirable, et ça poché dans une eau bouillante, dans un bouillon qui permettra de cuire justement à basse température en partant de 200 degrés en plongeant jusqu'à la température désirée. Et on est vraiment ça reste très tendre. Et l'idée c'est vraiment de travailler jusqu'au bout, c'est-à-dire on prélève les filets, ok, la carcasse c'est un bijou de saveur quand c'est cuisiné, on saisit bien la protéine pour capter le goût, le meilleur goût qui se trouve dans la carcasse, et à partir de là on peut faire des bouillons assez sublimes, quoi, où il y a vraiment toute la finesse du mélange du Combo Royal qui assaisonne un peu le côté iodé et de la volaille pure où on vient chercher le goût au cœur, quoi.
Et alors ça, tu sers ça avec quoi ?
Alors là on a plein de choses, on a plein de supports, mais voilà, des tagliatelles fraîches passées au laminoir la veille, ça peut être parfait. Je peux que citer les légumes bio de la ferme des Rotabaga, parce que voilà, c'est pareil, c'est tout est là, quoi. C'est un ave boule d'or qui sera juste poêlé ou même passé vapeur avec un filet d'huile d'olive. Les choses simples, hein, mais vraiment, il n'y a pas besoin de faire des caisses et des caisses quand on a les bons produits. C'est juste y aller à la simplicité, puis on a le goût de ce qu'il faut, quoi.
Alors peut-être une autre, pour les gens qui pour qui le côté algue est un petit peu plus, petit peu plus inquiétant.
On peut retrouver une recette plus classique. Beaucoup connaîtront le poulet au vin jaune et au morille. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, oui. Donc c'est partir de ça. Sauf que je n'ai pas utilisé le vin jaune, le McVin. Je suis parti sur l'élixir du Coiron. C'est un élixir, c'est ardéchois. Et en fait, ça reprend un peu cet alcool avec plein d'herbes que font les moines chartreux, entre autres. Et voilà, donc c'est très floral. C'est très herbacé, sauvage en même temps. Et en fin de cuisson, mettre... un dé à coudre de cet alcool dans la sauce crémée, ça, voilà, ça parfume énormément. Et puis voilà, avec une bonne poulet de morille fraîche, sauter.
Ouais, et là, on est en train de fondre en bave. C'est terrible. C'est terrible. Merci.
Merci à vous.
Je vous propose d'écouter maintenant l'angle santé. Et pour ce faire, j'ai interrogé Ludivine Lambert, diététicienne à la direction de la santé publique de Valence et en cabinet, à qui on a d'abord demandé eh bien, de faire un point quant aux préconisations sur la consommation de viande, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, sur laquelle nombreux sont celles et ceux à donner leur avis, mais pas nécessairement très pertinents.
Alors effectivement, on entend pas mal de choses au niveau de la viande, à savoir qu'il y a des nouvelles recommandations plan nutritionnel santé au niveau national qui recommandent de diminuer la consommation de viande rouge. Donc à pas plus de 500 grammes par semaine et de privilégier plutôt les viandes de volaille.
Et tout type de volaille ?
Alors c'est vrai que tout ce qui est poulet sera quand même moins gras que l'oie par exemple.
Quel est le rôle de la viande dans l'alimentation humaine ?
Alors, dans la viande, on va retrouver essentiellement des protéines, voilà, qui vont servir pour constituer nos muscles, donc qui ont différentes actions, mais essentiellement au niveau musculaire. Voilà, on va retrouver aussi du fer et différents minéraux. Et c'est assez propre à la viande au niveau du pourcentage. Ça fait partie des familles alimentaires qui vont apporter le plus de protéines.
Est-ce que la viande justement de volaille a des particularités ?
Oui, alors la viande de volaille, elle sera plus concentrée en protéines que la viande de boucherie.
Moins de gras aussi
Voilà, alors après, c'est plutôt en qualité de matière grasse. Dans les viandes de boucherie, on aura plus des graisses saturées, qui sont des graisses qui, si on en consomme en trop grande quantité, on le risque de boucher nos artères. Donc, ils vont poser des problèmes de maladies cardiovasculaires, par exemple.
Et le choix de l'élevage bio, est-ce que ça fait une différence ?
Oui, alors c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation et au niveau du soin qui leur a été apporté pendant leur élevage, il y a eu moins d'utilisation de pesticides. Au niveau de l'alimentation, sera plus contrôlé.
Et entre les volailles élevées en batterie et les volailles élevées en plein air ?
Oui, il y aura une différence quand même au niveau des matières grasses. Parce qu'une volaille qui a été élevée en batterie ne bouge quasiment pas. Donc, elle va avoir tendance à plus se stocker de masse grasse, finalement, par rapport à une volaille qui va se dépenser à l'extérieur, qui aura peut-être plus de muscles à ce niveau-là.
Quels sont les conseils que tu donnes à tes patients et que tu pourrais donner à nos auditeurs et auditrices dans la manière de consommer de la viande ?
Moi, effectivement, je privilégie les viandes de volaille parce que, comme on a vu au niveau des matières grasses, elles auront moins de graisses saturées. Donc, ça sera des matières grasses de meilleure qualité. Voilà. Et elles sont moins riches aussi, de toute façon. C'est des viandes moins grasses. Donc, moi, je conseille de consommer plutôt de la volaille, généralement plus sur le repas du midi parce qu'on a besoin d'énergie l'après-midi pour travailler, pour faire toutes les activités. Le soir, ça va dépendre de l'activité qu'on a au quotidien. Si on est quelqu'un de très dynamique et qu'on fait pas mal de sport, effectivement, le soir, on peut consommer également de la viande. Ça dépend aussi entre les hommes et les femmes parce que nos besoins ne sont pas identiques. Mais c'est vrai que la quantité de viande qu'on va manger au quotidien va vraiment dépendre de son activité physique et de son mode de vie.
Et puis peut-être aussi de son âge.
Oui, bien sûr, effectivement. Donc, les enfants, par exemple, ont des quantités moindres à manger. Et puis après, plus on va être adulte, plus on va en manger, plus on va avoir une activité intense, plus on va pouvoir en manger. Et puis en vieillissant, effectivement, on va baisser un petit peu la consommation généralement.
Est-ce qu'il existe des nutriments, des vitamines qui n'existent que dans les produits d'origine animale ?
Oui, par exemple, la vitamine B12 se trouve uniquement dans les produits d'origine animale. On ne peut pas la retrouver ailleurs.
Et cette vitamine B12, elle nous fait quoi ? Quelles sont ses propriétés ?
Alors, elle a plein de propriétés, mais surtout au niveau du cerveau, en fait. Donc, elle est indispensable à la vie. On ne peut pas vivre sans.
Alors, sur un plan strictement santé, est-ce que tu aurais des conseils de mode de cuisson à privilégier ?
Oui, bien sûr. Alors, après, on peut faire tout ce qui est cuisson à la vapeur. Ça marche très très bien avec, avec tout ce qui est volaille. Cuisson au four, on n'est pas obligé de rajouter de la matière grasse. On peut faire aussi en courbouillon ou en ballotine. Enfin, là, le cuisinier sera mieux que moi détailler là, les modes de cuisson. Mais voilà, des modes de cuisson où on n'a pas nécessairement besoin de rajouter des matières grasses en plus.
Oui, le gros ennemi, c'est la graisse.
La graisse et les sucres, mais beaucoup la graisse. Alors après, c'est vrai que dans les volailles, il est conseillé de ne pas manger la peau, même si effectivement,
elle est goûteuse,
voilà. Même si au niveau du goût, c'est très bon, mais c'est vrai que c'est la partie qui va être la plus chargée en matière grasse. Après, on n'est pas obligé de tout contrôler. On peut très bien se faire plaisir.
Le plaisir, c'est quand même ce qui reste central. Alors, juste deux mots, parce qu'en fait, c'est passionnant, donc on parlerait encore pendant très très longtemps. Juste un petit retour, Johan.
Oui, c'est ça. Non, mais ouais, c'est partir de ça, c'est on est en plein dans une période où on est obligé de se recentrer, où voilà, la peur nous enferme chez nous, nous limite en déplacement. Et c'est le moment idéal pour moi où c'est le moment de changer nos mœurs, nos habitudes de consommation et d'aller à l'essentiel, quoi. De dire voilà, bon ben le poulet, ce sera ce poulet parce qu'il est à côté de chez moi, parce que je sais comment il est produit. Et puis voilà. Et après, c'est vrai que bien manger, c'est ce qui peut nous sauver de plein de choses qui ont tellement dévié depuis. Depuis ces années-là où on est dans la consommation à outrance, où on ne regarde plus d'où ça vient, de comment ça a été fait. Et là, oui, pour moi, c'est... Voilà, changeons, par pitié.
Après ces conseils culinaires, on revient sur le territoire au niveau de l'Aglo avec Béatrice Rivoire, tu es chef de projet agriculture et alimentation donc à Valence Romand Aglo. Qu'en est-il de ce grand programme dont Laurence a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, le AFTER 2050?
Oui, alors c'est effectivement un mot qui joue sur les mots, donc c'est intéressant aussi de ce côté-là. C'est after par rapport à maintenant, dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire l'après, comment on va manger, comment on va travailler, quel type de culture. Et là, l'Aglo s'est posé la question, ça a été toute une démarche, hein. Ça s'est fait sur plusieurs mandats, d'abord d'arriver à mieux connaître le territoire, qui sont les exploitants, qui sont nos consommateurs, leurs habitudes. Et puis petit à petit, on est arrivé avec différents partenaires à élaborer une charte de travail en commun, parce que seul, on ne va pas très loin, ça c'est bien connu. Et de travailler avec les autres, ça a aussi permis de passer à l'étape, je dirais, à 2 de notre programme qui s'appelle effectivement l'assiette AFTER. L'assiette AFTER, c'est d'arriver à définir en fonction de notre territoire, et on a de la chance parce qu'au niveau production agricole, on a une variété et une qualité sur notre territoire qui est importante, et c'est un département qui est quand même très chanceux de ce côté-là. Et d'arriver, une fois qu'on a fait le diagnostic, de se dire, bon, si on se projette en 2050 en se disant la population va augmenter, va être en demande de plus de quantité pour pouvoir la nourrir, mais en même temps, il faut qu'on ait une alimentation de qualité, il faut qu'on puisse aussi voir au niveau de notre territoire quels sont, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on modifie. C'est un changement de curseur globalement. Tout en se disant, ben, attention, pas trop diminuer notre empreinte carbone, c'est important. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer quand même au niveau de nos pratiques agricoles pour faire en sorte que même si la population augmente, un, on puisse continuer à la nourrir, et deux, tout en respectant l'environnement. Donc ces enjeux-là nous ont permis de relever certains défis qu'on verra par la suite. Sachant qu'en fait, ce qu'on appelle assiette AFTER 2050, bon, elle n'est pas, il n'y a pas de gros changements. Enfin, si, il y a de gros changements, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on peut manger actuellement, mais c'est les quantités qui sont différentes et l'origine des produits. Donc les quantités, ben, ça veut dire manger moins gras, ça veut dire manger moins de viande, manger plus de fruits, et légumes, de manger moins de féculents, plus de céréales, des légumineuses, certains types de viande, mais ça, là, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis de veiller aussi à un autre curseur qui est extrêmement important, qui est le gaspillage alimentaire. Donc celui-là, en fait, quand on regarde la quantité qu'on peut gaspiller au niveau des aliments, si simplement on réduisait ça, eh bien, ça voudrait dire aussi qu'on réduirait notre empreinte carbone sur un territoire. Et ça, c'est important de pouvoir aussi l'évaluer. Donc là, ce sont les trois défis à relever qui sont conséquents. Et pour pouvoir y arriver, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail d'accompagnement que l'agglo propose aux producteurs pour faire en sorte que peut-être ils développent plus de céréales, plus de produits bio, de la volaille, mais une volaille labellisée, de qualité, des légumes frais, un petit peu plus sur notre territoire, parce que là, on manquerait un peu en termes de maraîchage de pouvoir installer davantage
de maraîchers
pour avoir plus de légumes frais qui viendraient. Dans l'idée, c'est pas qu'il faut que le territoire soit en autarcie totale et qu'on ne mange que ce qu'on produit sur notre zone géographique, mais c'est de limiter les transports et d'arrêter de faire venir des produits. Alors, certains de nos produits sortent de notre territoire, vont traverser la France pour revenir. Ils vont être transformés ailleurs et revenir transformés chez nous. Et ça, tous ces déplacements, ça a un coût et ça a une empreinte.
Oui, puis c'est ridicule. Enfin, ça finit par être un peu ridicule. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont quand même.
Oui, tout à fait. Puis en termes de dynamique locale, bah, ça veut dire recréer un emploi en termes de transformation locale, des petites unités qui permettent à ce moment-là de rendre le territoire encore plus actif sur un plan de l'emploi.
Alors, on fera justement au travers des différentes émissions, on focusera sur un volet particulier d'accompagnement. Il est temps pour nous de finir l'émission, malheureusement, parce qu'on a il y a un temps donné malgré tout. Je vous rappelle que nous étions donc avec Béatrice Rivoire, chef de projet agriculture et alimentation à Valence Romand Agglo, Laurence Penelon, animatrice de projet éducatif au CIVAM de la Drôme, Cécile Gérard Esquel, productrice avec son époux Nicolas sur la ferme de Jo, et Johan André et Marie Fiori André du restaurant Fin de Saison à Alixon, dont on souhaite vraiment le plus rapidement possible retrouver les assiettes.
Merci.
Je précise aussi que Ludivine Lambert, notre diététicienne conseil, propose dans le cadre de la direction de la santé publique de Valence des consultations gratuites pour les 16-25 ans au centre santé jeune à la Tour Maubourg un jeudi par mois. Merci, c'était la première donc de Local du goût pour demain. On se retrouve le mois prochain pour un focus autour d'un autre produit. Merci beaucoup à vous toutes et tous.
Merci bien.
À très bientôt.
Au revoir.